Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles. Nous sommes le mercredi 18 février 2026 en direct de 19h à 20h et vous pourrez retrouver cette émission demain de 9h à 10h sur Spotify. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales de Marseille et de ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leur engagement et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, ils forment une grande forêt qui, chaque jour, s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi avez votre juste place à prendre du moi au nous et du nous au tout dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. On va en parler ce soir. À nos micros, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je suis Marin Moffret, accompagné ce soir par Elissa Guyon.
Bonsoir.
Et Jeanne Ray.
Salut.
Et nos invités sont Marc Termine et Bruno Giraud. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Vous allez nous parler d'un festival qui s'appelle Écolocal et qui aura lieu au parc du 26e centenaire ce samedi 21 février, toute la journée. Et donc on va pouvoir le présenter, mais avant vraiment de présenter le festival, ce qu'on aime bien ici, c'est d'abord d'aller aux prémices des engagements, de se dire en fait les auditeurs et les auditrices qui ont décidé d'écouter cette émission, et bah pourquoi elles et eux aussi auraient envie de se dire bah oui, il faut aller à ce festival, moi aussi j'ai envie de m'engager. Et la meilleure chose qu'on puisse donner, c'est de partager son parcours et un peu partager la flamme qui a pu vous habiter et qui vous habite encore, je l'espère, pour vous donner envie de se battre pour que la société puisse continuer à être digne ici et ailleurs. Marc, quand on a préparé l'émission, tu m'as un peu raconté ton parcours. Bruno, je vais le découvrir en direct, comme tout le monde. Ce que je vais vous inviter, ça va être tout simplement un peu de partager vos parcours et les causes de vos engagements respectifs. Est-ce que quelqu'un de vous deux veut commencer ?
Ok, ça a commencé en fait, comme je t'expliquais, en fac d'éco, hein, puisque ma maîtrise d'éco, c'était en 1997, donc c'est pas hier. En fait, elle portait à l'époque sur ce qu'on appelle le protocole de Kyoto, les accords de Kyoto. Donc effectivement, j'abordais au sein de mon mémoire de maîtrise toute la problématique justement des enjeux carbone, des enjeux des ressources énergétiques. Et pour être très 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 clair, il me fallait 9 pour avoir ma maîtrise, on m'a mis 8,5 histoire de bien me punir. Et ce qu'il y a d'assez marrant dans cette histoire, c'est qu'en fait, comme je te disais, j'ai toujours du coup suivi de très près les enjeux environnementaux. Tout le temps été très intéressé par les sujets de société, les sujets environnementaux. Et il a fallu, j'étais aussi adhérent d'ailleurs Greenpeace, auquel on verse, enfin, je verse toujours ma cotisation mensuelle. Et puis, un jour, j'ai eu l'occasion d'écouter Jean-Marc Jancovici, hein, le responsable du Chiffre Project. Et en fait, je me suis dit, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui parle de ma maîtrise. Et je me suis dit, à un point où en fait j'avais vraiment une résonance folle par rapport à je considère toujours une injustice par rapport à mon mémoire, puisque ça abordait vraiment les problématiques de l'énergie, de la transition, des enjeux. Et en fait je me suis dit, il arrivait aussi une autre chose à ce moment-là, c'est que quand j'ai rencontré Jean-Marc Jancovici via la presse, j'ai eu la naissance également de ma fille, et là je me suis dit bon, c'est bien. Maintenant, j'ai eu le temps en plus à travers les années entre mon mémoire et la phase où j'ai écouté Jean-Marc Jancovici, j'ai eu le temps de puisque je m'intéressais très très énormément à ces sujets, donc à me faire une vraie culture. Et je me suis dit là il faut vraiment que tu passes à l'action. Tu peux plus rester juste spectateur de ce qui se passe. Et donc je me suis inscrit. Je suis un des premiers shifters sur la région d'Aix-Marseille. Donc j'étais d'abord responsable pas responsable, mais un shifter bénévole. Et puis après, à travers un événement shifter, on a créé l'association. Et j'ai appelé Bruno à moi, qui je sais qu'il est quelqu'un de très engagé dans le social. Et puis on a lancé l'expérience de Pachamama Vibes, l'association que je crée là. Et je peux demander à Bruno peut-être de parler un petit peu de lui aussi.
Merci Marc. Donc on entend déjà une prise de conscience intellectuelle et aussi quelque chose d'un événement de ta vie, l'accueil d'une naissance où tu te dis mais en fait par rapport à la compréhension du monde dans lequel je vis, je peux pas laisser ce monde-là. On va en parler toute la soirée du monde dans lequel on se projette, qui puisse être négatif et aussi plus positif. Mais donc merci pour ce premier tour, Bruno, à ton tour. Est-ce que qu'est-ce qui motive ton engagement et finalement ta présence ici à la radio?
Alors bon, je fais partie de l'association Pachamama Vibes depuis le départ avec Marc. En fait, on se connaît depuis l'enfance avec Marc. On est amis d'enfance depuis. Ça commence à faire un sacré moment. Et au-delà de ça, moi je suis éducateur de prévention spécialisé à la DAP 13. Et donc je travaille sur Ber l'étang actuellement. Et après, pour tout ce qui est environnement. Donc là, moi j'ai toujours travaillé sur des chantiers où on mettait en place l'environnement en fait. Où on travaille sur de l'environnement, sur de la végétalisation d'espaces urbains. D'ailleurs, un des chantiers sur la Belle de Mai, quand je travaillais sur la Belle de Mai, on avait fait au croisement de la rue Clovis-Hugue, on avait végétalisé cet endroit-là. Puis après, sur Salon de Provence, on a travaillé dans les collines, on a travaillé sur les murs en pierre, on a travaillé sur... Et sur Berne, on a créé un verger méditerranéen aussi pour un quartier QPV au sein d'un quartier de... Le quartier du Béalais à Berne.
Merci. Vous avez employé tous les deux des noms de structures que personnellement je connais, mais je ne sais pas si tout le monde les connaît. Le Shift Project, qui est plutôt orienté ingénieurs qui vont vraiment poser une vision stratégique sur l'État français, est mené effectivement par Jean-Marc Jancovici, qui est une personne assez connue, qui fait des cycles de conférences. La DAP 13, qui est dans une approche d'écologie vraiment populaire. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux quand j'étais en service civique à Félix Piat pour faire une grande fresque du quartier idéal de Félix Piat sur le mur d'un centre social. Est-ce que vous pouvez nous présenter deux secondes en fait ce que sont ces structures?
Oui, alors le Shift Project en fait c'est un think tank, donc il a une vocation. Les adhérents du Shift Project en fait sont des entreprises, donc il a pour vocation effectivement à faire du lobbying clairement pour favoriser la décarbonation de l'industrie française et proposer un plan justement de décarbonation de l'énergie en France. À côté de ça se trouve une autre structure qui s'appelle les Shifters, donc ce sont les bénévoles du Shift Project qui viennent accompagner le Shift Project sur des travaux de recherche. Moi, j'ai participé à des ateliers sur au début, moins maintenant parce que j'ai moins le temps. Mais et le Shift Project, en fait, effectivement, s'adresse. Un des gros problèmes, je viens de dire un petit peu de cette association, c'est qu'en fait, il y a 40 000 adhérents en France. L'âge moyen, je ne veux pas dire des bêtises, je crois qu'il est autour des 32 ans. Et en fait, le diplôme moyen d'un shifter, c'est Bac plus 6. Donc en fait, on est dans une sphère de gens qui ont de très gros savoirs, de très grosses compétences. Et d'ailleurs, moi, honnêtement, je reconnais que dans cette association, j'ai appris énormément de choses, notamment sur les questions énergie. Je considère Jean-Marc Jancovici comme un des plus grands experts aujourd'hui de ces problématiques-là en France. Et c'est vrai qu'après, derrière, la difficulté de cette association-là, c'est d'attirer... vraiment du grand public et d'engranger une dynamique sur un des enjeux qui est malgré tout un des enjeux majeurs aujourd'hui de l'environnement de manière globale et du changement climatique. Donc ça, c'est le Shift Project. Après, pour dire aussi, nous, avec Pachamama Vibes, puisque bon, au moins c'est l'occasion de présenter un petit peu ce qu'on fait, on fait de la pédagogie aussi. Donc moi, j'interviens auprès des ingénieurs arts métiers 3e année énergie décarbonée. Donc j'interviens deux fois par an pour leur justement pour leur prêcher un petit peu la bonne parole du changement climatique. Bon, alors je pense que je leur apprends pas grand chose, mais je leur remets au moins ce que je te disais, l'église au centre du village. Je pense que ça leur fait un petit peu de bien. J'ai de bons retours. Ça fait 3 ans maintenant que je fais ça. Je suis content de le faire. Et puis à côté de ça, avec l'association et avec la sensibilité de Bruno, tout ça, on fait des actions de plantation d'arbres. On gère un jardin partagé. On est des acteurs, on peut dire, du couvent engagé, voilà.
Ouais, le Shift Project qui compte un certain nombre d'étudiants, notamment qui ont signé ce qu'on appelle le réveil écologique dans les années 2019, avec des étudiants qui ont fait Polytechnique, les mines centrales, et en fait qui ont bifurqué en disant nous ne voulons pas ce monde-là. Et effectivement, il y a la question de l'embarquement, comment on arrive à embarquer tout le monde. J'imagine qu'à l'ADAP 13, la moyenne des publics accompagnés n'est pas d'être avec un bac plus 6. Je te laisse finalement aussi apporter le regard complémentaire. C'est hyper intéressant de voir un peu peut-être ces confrontations des mondes.
Après, pour le groupe ADAP 13, c'est une association qui s'occupe de l'aide sociale, enfin qui est financée par l'aide sociale à l'enfance, et qui c'est avec une tranche d'âge entre 11 et 21 ans. Et les chantiers éducatifs qu'on peut faire, ou l'accompagnement qu'on peut faire de ces publics-là, ça va être surtout sur les problématiques qui vivent, pas forcément sur l'environnement, on est parfois assez loin. Et après, par rapport à moi, ma façon de voir les choses, c'est comment on les amène aussi à mieux vivre dans leur environnement et sortir aussi de ces chantiers battus, en fait, de ces sentiers battus.
Oui, je me permets, mais en fait c'est là où c'est intéressant effectivement la bascule entre Bruno et moi, c'est-à-dire que moi c'est plutôt une approche très scientifique, et Bruno c'est vraiment une approche qui est très sociale. Mais en fait la complémentarité des deux, moi, me paraissait naturelle, parce qu'aujourd'hui les enjeux environnementaux vont avoir un tel impact social. Et puis il faut être honnête, moi je te disais, j'écoute beaucoup de conférences, je lis beaucoup de bouquins et tout. La partie sociale, on se rend compte, la partie de l'emploi, toutes ces problématiques là, il y a encore des gros espaces d'inconnus. Et aujourd'hui, si tu te poses des vraies questions sur ces sujets-là, en fait, tu te rends compte qu'il y a de la littérature, mais de la vraie réponse, il n'y en a pas tant que ça. Et effectivement, nous, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec Bruno, on est très en phase sur nos engagements, c'est qu'effectivement, on considère qu'aujourd'hui, il faudrait que la société s'accapare vraiment davantage ces problématiques-là, parce que socialement, effectivement, ça va avoir de grosses conséquences. Et effectivement, Bruno, par son approche, lui, des quartiers sensibles et tout ça aussi, c'est des gens qui va falloir embarquer aussi. Et ça, effectivement, Bruno, il a cette sensibilité-là, peut-être plus que moi. Hein, et ce qui fait qu'effectivement, on est bien ensemble. Ouais.
Et ouais, il faudra embarquer ces populations-là qui vivent peut-être dans des terres un peu moins favorisées et favorables. Aussi parce que c'est les populations qui vont être en première ligne des effets néfastes de tous ces changements. Et du coup, c'est vraiment un fil intéressant que de les amener à se poser des questions et en fait les sensibiliser là-dessus, utiliser un langage qui est le leur. Il y a une association que j'aimerais bien citer à ce titre-là, c'est Banlieue Climat, qui est du coup pas marseillaise, mais qui font des choses super et qui éduquent vraiment à ces questions. Ouais.
Merci pour ce premier tour et effectivement ce rapport des différents mondes qui est un truc qu'on essaie de poser dans cette émission sur comment est-ce qu'on arrive à pouvoir aller chercher tout le monde, d'autant plus que il y a la moitié des personnes en France qui vivent sous les 2 tonnes de CO2 par an en termes de médian, c'est-à-dire que la moyenne française elle est à 11 tonnes de CO2 émises par an, mais la moitié des Français ne la consomment pas du fait que y a des immenses disparités d'émissions en fonction des modes de vie. Donc il y a une partie qui est incompressible liée aux infrastructures, c'est-à-dire que c'est la même pour tout le monde parce que c'est les hôpitaux, c'est les routes, c'est l'approvisionnement des ressources qui sont nécessaires au fonctionnement de l'État. Mais après, il y a le mode de vie particulier. Et ça, Jean Covici, il aime bien montrer en fait quels sont les pourcentages sur lesquels on a des leviers à titre personnel, sachant qu'à titre personnel, on a des leviers à la fois dans sa vie professionnelle, enfin dans sa vie personnelle, comment est-ce qu'on se déplace, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on a comme mode de vacances, mais aussi, et je pense qu'on ne l'oublie, on ne le dit pas assez, on a des leviers au travail. On est citoyen aussi quand on travaille dans une banque. Je crois que tu travailles dans une banque. Quand on est lobbyiste, quand on travaille pour des grosses industries pétrolières qui sont autour de l'étang de Berre, voilà, ça ne s'arrête pas là, l'impact. Même si derrière, il peut être porté par une structure qui ne portera pas son nom personnel, c'est aussi où est-ce qu'on décide de mettre son argent et son investissement. Pour continuer, Marc, quand on a préparé l'émission, tu mettais le doigt sur le fait que un des points qui pour toi était sensible, c'était une difficulté de prise de conscience des échelles, justement. Et le fait de se dire, ah ben c'est bon, si j'arrête la voiture, je peux continuer à prendre l'avion. Voilà, moi j'ai déjà eu ma mère qui mettait en comparaison.
Si vous voyez le doigt vengeur de Marin.
Non mais maman,
si
tu m'écoutes, sache-le que je m'en remettrai pas. Le jour où tu m'as comparé mon frère qui revenait des États-Unis en avion avec le fait que j'étais rentré en car de Marseille pour aller à Paris, ce n'est pas le même échelle de grandeur. Voilà. Donc, j'aimerais que tu puisses un peu développer, Marc. Il y avait trois aspects. Un aspect sur l'énergie, un aspect sur les températures, un aspect sur les ressources. Je te laisse la main.
Oui, alors, tout d'abord, sur le changement climatique, c'est vrai que lorsqu'on parle avec des gens, lorsqu'on parle d'un changement climatique à 3 degrés, les gens, ils imaginent que l'été, c'est 3 degrés de plus. C'est 1 degré, peut-être l'hiver, il pleut. Bah, il pleut. T'as vu, Marc, il neige. Oui, bah, effectivement, il neige. La réalité du changement climatique, elle est pas aussi simple. C'est que lorsqu'on parle de 3 degrés, c'est un réchauffement global au niveau de la planète. Pour ceux qui connaissent, qui ont eu l'occasion d'aller à la grotte, le musée de la grotte Cosquière, on voit clairement, effectivement, il y a d'ailleurs une image du vieux port tel qu'il était il y a 20 000 ans en arrière. Il y a 20 000 ans en arrière, on était sur une période glaciaire. Donc, une période glaciaire aujourd'hui.
Il y a un pingouin.
Ah ouais, donc on avait la mer à 120 mètres en dessous du niveau actuel, et donc on avait un climat sibérien, il faut le savoir, un climat sibérien sur la région PACA. Donc on avait 3 mètres de glace l'hiver, et ça, le changement d'une phase glaciaire à un climat méditerranéen, c'est un réchauffement climatique de 5 degrés de moyen sur la planète. Donc lorsqu'on dit aujourd'hui un changement de 3 degrés moyen, c'est 3 degrés supplémentaires, c'est-à-dire qu'on part d'un climat méditerranéen et on va rajouter 3 degrés. Quand on sait que de 5 degrés, c'est le passage d'un climat sibérien à un climat méditerranéen, honnêtement, 3 degrés, quand j'entends le ministre de l'Environnement qui dit « bah oui, on va 3 degrés, 3 degrés et demi, on va s'adapter », je me dis « bon, elle est à côté de ses pompes, il faut vraiment remettre les valeurs telles qu'elles sont ». Et effectivement, le discours qui prédomine sur les... Il y a beaucoup de greenwashing parce qu'il y a beaucoup de données qui sortent dans tous les sens. En fait, moi, je considère qu'effectivement, il est important au moins de rappeler les bases, la valeur de base que peut représenter 3 degrés et ce que ça représente à l'échelle globale, 3 degrés. Et effectivement, avec juste un argument simple, qui est un argument du climat du passé, on arrive vraiment à mesurer cet impact. Il n'y a pas besoin, effectivement, de faire tout un tas de grands discours. Je pense qu'effectivement, vous dites ça. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je dis aux étudiants d'art et métier, je veux dire, c'est la portée de il n'y a pas besoin d'être ingénieur hein, pour comprendre. Donc ça, c'est effectivement le premier point qui me semble ultra important. Sur la partie énergétique, pareil, à un moment donné, il va falloir remettre l'église au centre du village. Aujourd'hui, on sait, il y a la PPE 3 qui a été votée il y a quelques jours. On est en train de discuter sur est-ce qu'il faut du nucléaire, pas du nucléaire, quelle part. Voilà. Le mix énergétique de la France, ça, c'est vérifiable sur Internet. Le mix énergétique de la France, c'est 1500 tétrawattheures. Si on ramène effectivement le...
Est-ce qu'on peut juste dire ce que c'est ?
Alors en fait, le tétrawatteur, c'est la consommation, c'est l'énergie consommée rapportée à une valeur électrique. D'accord. La production électrique de la France, c'est 500 TWh. La consommation, enfin, c'est un petit peu plus, c'est, on va dire 520 TWh. Le mix énergétique, c'est-à-dire ce que tous les Français consomment, c'est-à-dire avec leur voiture, l'électricité, parce qu'il n'y a pas que l'énergie qu'on consomme, c'est pas simplement de l'électricité. Aujourd'hui, c'est 60% de l'énergie fossile. C'est 1500 TWh. Ça veut dire que c'est trois fois plus. D'accord? Et dans ce qu'on consomme, il y a des produits qui viennent d'étrangers. Donc, effectivement, notre mix énergétique, si on ramène la consommation globale des Français avec ce qu'on importe, tout ça, ça représente 2200 TWh. Et on est sur une discussion aujourd'hui sur la transition énergétique où on nous dit en 2050, on veut produire 690 TWh. En fait, aujourd'hui, on consomme 2300 TWh et demain, on va se retrouver avec de l'énergie uniquement, dans l'idéal, uniquement électrique, mais avec 690 TWh. Alors l'exemple que je te disais, que je prends souvent, c'est en fait, on nous dit, on a un ballon de basket et on va ramener toute la consommation d'un ballon de basket dans l'équivalent d'un Rubik's Cube et on nous dit ça passe.
Mais est-ce que ce que ça veut dire, sans le dire clairement, c'est il va falloir drastiquement changer nos modes de vie et utiliser beaucoup moins d'énergie?
Ben c'est exactement ça, mais c'est même pire que ça, parce qu'en fait, du coup, si on analyse de manière basique, vraiment très basique, c'est soit de toute façon on le fera et on se force à le faire, soit de toute façon si on le fait pas, on le subira. Donc, c'est pour ça que Jean-Marc Jancovici, d'ailleurs, quand on écoute beaucoup le discours, enfin, ceux qui écoutent le discours de Jean-Marc Jancovici parle de décroissance volontaire et de décroissance subie. La décroissance subie, c'est effectivement, on ne fait rien et on va subir cette décroissance énergétique. L'énergie, c'est ce qui permet de tout fabriquer, c'est-à-dire, et même de produire l'électricité qui permet de faire cette émission, hein. Donc.
Ne spoilons pas tout parce qu'on va parler de la décroissance subie et de la décroissance choisie dans la deuxième partie d'émission. Mais effectivement, il faut quand même un peu remettre, comme tu dis, l'église au centre du village ou l'énergie au centre de la société. Le fait de se dire que ce que vous mangez, c'est qu'est-ce qui a permis de pouvoir produire ces aliments-là, qu'est-ce qui a permis de pouvoir les emballer, qu'est-ce qui a permis de pouvoir les transporter, quelle a été l'énergie qui a été utilisée à cet endroit-là. C'est pareil pour le logement, c'est pareil pour les vêtements, c'est pareil pour votre santé, c'est pareil pour votre travail, quel qu'il soit. Et donc, le fait de se dire que l'énergie, c'est ce qui va pouvoir mouvoir le reste de la société, c'est un peu comme pour un arbre, c'est le tronc. C'est le tronc central. Et la deuxième chose que je voulais aborder là-dessus, c'est aussi la question de se dire, oui, mais on va faire une transition énergétique. On va partir sur du tout énergie verte et donc on va pouvoir sortir du pétrole et du carbone. Oui, mais ceci ne va pas contre l'idée, malgré tout, de continuer à devoir nécessiter des ressources pour pouvoir faire ça. Ouais. Parce que si on reste dans un modèle constant, c'est-à-dire qu'on veut continuer à produire la même quantité qu'on veut produire, il va falloir aller chercher ces ressources-là. Et aujourd'hui, on le voit d'un point de vue géopolitique, c'est en train de se tendre de manière extrêmement tendue dans une approche néo-impériale sur des nouveaux gisements. Alors, soit des gisements existants, qu'ils soient en Afrique, en Ukraine et tout un tas de territoires où Trump intervient en disant qu'il participe à la paix, en disant qu'il y a 8 guerres sur lesquelles il a réussi à mettre la fin. En réalité, ce n'est pas vraiment des guerres sur lesquelles il arrive à mettre la fin. Il essaie de conclure des deals pour récupérer des ressources qui vont ensuite être rapatriées aux États-Unis. Et on le voit aussi en Arctique avec le fait de se dire on est en train de voir les glaces qui fondent, des terres qui deviennent plus accessibles, la capacité, un, d'avoir des voies commerciales qui s'ouvrent là-dessus, et deux, de pouvoir aller chercher toutes les ressources qui n'ont pas encore été récupérées sur ces territoires-là, avec ce que ça peut avoir comme incidence de territoires qui n'étaient pas spécialement considérés comme très stratégiques au nord de la Norvège, qui tout d'un coup deviennent la tension globale. On l'a vu aussi avec le Groenland au début du mois de janvier. Voilà, donc je ne sais pas à quel point, effectivement, on a vraiment conscience de toutes ces incidences-là. C'est un truc que tu disais, Marc, c'était qu'en fait, parfois, on voit les conséquences, on ne voit pas les causes. Il y a un livre là que je suis en train de lire en ce moment qui me marque à fond, qui s'appelle « Les raisins de la colère » de John Steinbeck, où il écrit trois fois « les conséquences, pas les causes, les conséquences, pas les causes, les conséquences, pas les causes ». Et le souci, c'est que la colère naît aussi de confondre ce qui peut être de l'ordre de quelle est la cause d'un problème et quelles en sont les incidences.
Oui, alors là justement, il y a peut-être Bruno aurait un truc à dire qui peut-être plus, enfin, il dirait peut-être mieux que moi, mais déjà il y a Il y a le ressenti déjà qu'effectivement on commence à se rendre compte que le changement climatique est bien présent. On voit les inondations actuellement. On voit lui, il habite la campagne, donc t'habites quand même un peu. et c'est vrai que régulièrement, lorsque je discute avec lui, il me dit mais Marc, je vois des changements. Vas-y, tu peux.
Moi, j'habite Lançon. Lançon Provence, c'est du rural, mais ça va, on est encore pas très loin du centre-ville, de la ville. Mais c'est vrai qu'on voit déjà le changement qui peut y avoir dans les collines, qui peut y avoir dans les garrigues, et puis le travail qui est fait aussi, le travail qui est fait par le département ou par d'autres institutions où il y a des coupes d'arbres, où il y a des hectares qui sont coupés, soi-disant pour éviter qu'il y ait le feu. Donc c'est vraiment écrit, hein. On coupe des arbres pour pas qu'ils brûlent en plein été ou en pleine période de nidification. Et il y a des chaleurs. Quand on parle de nuit tropicale l'été ou des trucs comme ça, on les ressent. Dans les terres, nous, on n'a pas d'eau dans ce village-là. En fait, on a juste le canal qui passe pas loin. Mais la chaleur est très forte, en fait. Même les nuits, on a des nuits à 25 degrés qui dépassent. Il y a bien plus d'une dizaine de nuits à plus de 25 degrés.
Oui, et puis effectivement, moi, je parlais des problématiques énergétiques, mais effectivement, le changement climatique, tout le monde, il n'y a pas besoin de faire de grands discours là-dessus. Tout le monde sait que ça va concerner la problématique de l'eau, la problématique de l'agriculture. Donc, effectivement, aujourd'hui, je trouve que la prise de conscience par rapport aux générations futures, elle reste encore assez faible. Et moi, je sais que des fois, j'entends d'ailleurs des gens qui me disent mais Marc votre combat il est vain, c'est foutu, tout ça, alors qu'en réalité pas du tout. Si tu remets aussi la problématique énergétique au centre du village, tu te rends compte que dans 25 ans, 25-30 ans, on devrait plus avoir de pétrole en réalité. C'est fact-checkable. Tu vas sur le site de Total. C'est le site de Total, je pourrais vous le montrer sur totalenergie.com, notre expertise, comme ça les auditeurs pourront aller vérifier d'eux-mêmes. Mais il y a un tableau qui te dit qu'effectivement, dans 30 ans, il y aura plus de pétrole. Donc, un monde sans pétrole dans 30 ans, c'est vraiment une décroissance énergétique forcée. C'est ce que je te disais, l'aménagement des territoires. Aujourd'hui, quand on voit les travaux qu'il faudrait mener, les investissements que ça nécessiterait sur tout l'adaptation des territoires, et on voit aujourd'hui les difficultés qu'ont déjà certains agriculteurs, tous les combats que peuvent mener des acteurs de l'agriculture. On se dit on a intérêt de bien affecter nos ressources et surtout nos ressources déjà énergétiques pour préparer la transition, parce qu'on a le sentiment de pas très voir pas du tout.
Et sur cette question-là, est-ce que quand tu interviens auprès d'étudiants, donc c'est plutôt des jeunes gens, j'imagine, est-ce qu'il y a des différences entre leur réaction et leur sensibilité, peut-être, et les gens d'âge un peu plus avancé avec qui tu peux parler ?
Ouais, il y a clairement un gros écart. C'est-à-dire que déjà, moi, quand ils me demandent ce que je fais dans la vie, donc bon, les gens que je côtoie et tout, est-ce qu'ils sont climato-sceptiques ? Ça, ils me posent clairement la question. La réponse est souvent, effectivement, oui, dans mon milieu. On l'a pas dit, mais Bruno et moi, on a plus de 50 ans, donc on est dans une tranche d'âge où les gens sont plutôt climato-sceptiques, clairement, hein. Faut pas se voiler la face. Puis, à Rémétier, si tu choisis la filière énergie, c'est que tu as une sensibilité. Donc effectivement, j'ai l'impression que ils sont déjà une éponge, donc ils sont prêts à ce discours-là. Mais effectivement, selon les publics qu'on rencontre, nous, ça nous est arrivé, puisqu'on fait des événements dans le cadre de notre jardin partagé, où on a rencontré des gens qui criaient, mais ne les écoutez pas, c'est des gens dangereux. C'est malheureusement une expérience. Bruno peut en témoigner du vécu.
hier dans le journal de La Provence, qui est détenu par Monsieur Saadé, qui est l'un des plus grands armateurs du monde, il était écrit que les personnes âgées étaient plus engagées que les jeunes sur l'écologie. Et il y avait une double page sur la question pour dire, regardez, ils sont beaucoup plus investis que ces jeunes qui n'aiment pas l'engagement. Voilà, petit aparté. Donc, pas de shaming générationnel sur cette question.
Je pense en fait que c'est pas une affaire d'âge en réalité, c'est vraiment une affaire de culture
et
d'abord.
De conscience.
Et de conscience, ouais, voilà, exactement.
C'est des élévations du champ de
conscience. Je pense qu'il peut y avoir. Enfin, moi, je connais des jeunes, hein, j'ai des enfants, je côtoie aussi des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi aussi. Effectivement, je rencontre des gens qui sont autant engagés et désengagés que ce que je rencontre finalement. Et même dans mon lieu de travail, hein. Bon, après, c'est sûr que c'est pas un reflet global, mais je pense que l'engagement, ça vient d'abord de soi, en réalité, ouais.
Alors, il est 19h31, parce que là, l'objectif aussi, c'est de présenter un festival.
Oui.
Donc,
ah oui,
on va en parler peut-être un peu moins, mais en fait, tout ça, c'est ce dont on va parler pendant le festival, évidemment. Le but du festival, c'est de pouvoir favoriser l'engagement, favoriser la prise de conscience. Ça peut être l'occasion, avant la pause, donc de manière courte, mais après, on pourra continuer, évidemment, à présenter tout ça, dire ce qui va se passer. Donc, il y a quand même plutôt des conférences le matin, avec des personnes qui sont qualifiées pour parler d'un certain nombre de sujets. Monsieur Ozano.
Alors, Mathieu Ozano devait venir, c'est le président actuel du Chief Project. Alors, juste le directeur actuel du Chief Project. Le directeur, avant Mathieu Ozano, était le créateur de la fresque du climat, Cédric Brommenbach, j'écorche pas son nom. Donc, effectivement, il est malade, il peut pas venir. Donc, on a un plateau, mais selon moi, on représente quand même parmi ce qui peut être de la crème quand même de ces sujets-là au niveau local. Donc, on commence par une conférence sur quel climat en région PACA par Antoine Nico du Grec Sud. Donc là vraiment le Grec, je pense c'est effectivement l'organisme aujourd'hui, c'est l'équivalent du GIEC, hein, au niveau local, donc on ne peut pas faire mieux sur cette thématique. Et puis après on a Jean-Paul Calvé qui est responsable de la stratégie des énergies fossiles dans un groupe de pétrochimie internationale. Donc effectivement c'est quelqu'un qui maîtrise clairement le sujet, qui est shifter accessoirement aussi, et qui vient faire une conférence sur l'état des effectivement des énergies fossiles et le risque à terme de décroissance subie. Et donc et là c'est vraiment le je veux dire c'est comme effectivement si c'était quelqu'un de Total, on peut dire, hein, aussi qui venait vraiment nous faire un point très clair sur les problématiques énergétiques. Donc ça c'est vraiment des très 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 bonnes conférences. Et puis après l'après-midi c'est des tables rondes plutôt qui vont être ouvertes au grand public. Le matin on a plutôt du public, c'était sur inscription et invitation. On a quand même du public plus professionnel, puisqu'on travaille un petit peu avec aussi des syndicats, des syndicalistes. Donc, et puis l'après-midi, c'est un vrai festival. Après, on a des stands d'associations, de la musique, puisque c'est un festival sans musique, c'est pas un festival aussi. Donc effectivement, un événement qui sera plus grand public, familial et populaire.
Et finalement, qui vous ressemble bien tous les deux. Donc, le matin, plus sur une partie technique, comme toi, Marc, et l'après-midi, sur une partie plus relation avec les autres.
Avec des stands aussi d'associations locales aussi, sur l'environnement, avec Clean Bike Alank, Un déchet par jour, voilà, France Nature Environnement.
Et qu'on a reçu à la radio, tout ça.
Oui.
La partie du DJ set, c'est surprise, c'est ça? Non.
Alors, c'est une association marseillaise qui, peut-être que vous avez dû voir de temps en temps, c'est Technoz qui organise des événements nomades. En fait, c'est un kiosque, un food truck, mais aménagé en mode DJ set, avec trois DJ qui seront présents. Et effectivement, l'idée, c'est de créer une bonne ambiance dans le festival. Et je pense qu'effectivement, on est dans l'esprit de quelque chose, puisque ils utilisent des panneaux photovoltaïques, des batteries. Donc on est vraiment dans un esprit très 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 environnemental, on va dire. Donc ça collait vachement bien avec le projet, donc on est content d'avoir Technoz à nos côtés. Ouais,
on a dans notre équipe des grandes spécialistes des festivals, on dit des festivals,
festivals
responsables, joyeux, carnavaliers. Donc voilà, petit clin d'œil. Malheureusement, moi, je connais moins ces univers-là, même si j'aimerais bien les connaître plus. On va faire une pause, un moment de respiration, puisque l'écologie, c'est aussi de la lenteur, du plaisir, qui peut se faire par la musique, qui vient en complément des mots. Qu'est-ce que vous avez décidé de nous faire écouter ce soir, messieurs ?
Alors, j'ai choisi Hot Chip, I Feel Better. Alors, pas parce que ça m'évoque quelque chose de particulier, mais parce que c'est vraiment un morceau que j'aime bien, c'est assez dansant, assez fun. Bon, voilà, c'était mon choix du moment. Peut-être j'aurais pu choisir autre chose, mais je l'ai écouté ce matin et je me suis dit, tiens, c'est une bonne chanson pour, pour cet événement.
All right, I hope you feel better. Vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4 pour l'émission de La Forêt des Possibles. Nous n'avons pas quitté Bruno Giraud et Marc Termine qui nous parle du festival écolocal dont j'espère que vous les avez mis très précieusement dans votre agenda puisqu'il aura lieu ce samedi 21 février, toute la journée, au parc du 26e centenaire. Messieurs, vous le savez, la contrainte est source de création. Quand on parle d'écologie, on est nécessairement confronté aux limites, et la nôtre ce soir est la limite du temps. Puisque d'ici 15 minutes, grand maximum, nous devons rendre l'antenne, et nous avons 15 minutes pour projeter le futur. Rien que ça. 15 minutes pour projeter deux futurs. Un futur catastrophique et un futur un peu moins catastrophique et un peu plus souhaitable. Donc je vais vous donner des consignes. D'abord, nous allons commencer par le futur catastrophique. Voici le cadre dans lequel il s'inscrit. Ce futur-là, c'est le futur du business as usual, c'est-à-dire le futur de si on continue comme maintenant. Parce que comme vous le savez, Donald Trump a décidé de faire sauter une des plus grosses lois qui permettait de lutter contre le changement climatique aux États-Unis cette semaine. On s'en félicite grandement ici à la Forêt des Possibles. Si nous le pouvions, nous ferions quelque chose. Malheureusement, ça nous dépasse. C'est ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. C'est que parfois, il y a des choses qui nous dépassent tellement parce qu'elles sont à des échelles complètement au-dessus des nôtres qu'on se dit que quoi qu'on fasse, nous, personnellement, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, à quoi ça ressemble ? À quoi ça ressemble dans le mode de vie? À quoi ça ressemble dans la manière de consommer, de marcher dans la rue, de se transporter, de vivre avec ses voisins, que ça soit à titre personnel, mais aussi avec les pays frontaliers. Voilà. Faites-vous plaisir, et si on doit avoir peur, ayons peur.
Ah ben je suis clairement convaincu qu'on va avoir peur. Hein. Alors personnellement, moi je pense que ce qui va nous freiner en premier lieu, c'est une crise économique en réalité. Je pense qu'avant même l'effondrement, parce que on entend parler beaucoup d'effondrement, mais en fait le système économique, c'est-à-dire si demain l'agriculture ne suit pas, il y a une inflation sur des produits agricoles, ben, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de plus en plus de gens qui seront dans le besoin. La classe moyenne déjà aujourd'hui, elle a du mal à s'en sortir, donc l'énergie, on l'a dit, mais sera en décrue. Donc si on a une augmentation des coûts énergétiques, on a déjà vu que pour 10 centimes, les gilets jaunes étaient dans la rue. Alors imaginons que demain, le prix du pétrole soit à 3 euros. Donc on aura un vrai stress au niveau social. Mais je vais aller même bien plus loin que ça. Et Jean-Marc Jancovici le dit, mais j'ai l'impression que tout le monde le prend un petit peu à la rigolade. Mais tout notre système social aujourd'hui repose sur un système économique qui tient avec de l'énergie. C'est-à-dire que si demain, on n'a plus d'énergie, je pense que c'est nos retraites qui partent dit totalement, hein, pour notre système de santé qui part avec. Donc on a en réalité tout intérêt à se préparer, parce que déjà, même comme en reprenant l'exemple du ballon de basket et le Rubik's Cube, on se dit déjà bien préparé, ça risque d'être dur. Alors sans préparation, là je pense que vraiment on serait dans un relatif chaos social, économique et après, derrière, climatique. Alors, l'être humain, moi, je suis pas aussi pessimiste. Je veux dire, l'effondrement total, moi, j'y crois pas personnellement, parce que je pense qu'effectivement, lorsqu'on sera vraiment dans une telle déroute, je pense qu'on n'aura pas d'autre choix que de faire notre transition forcée, mais par contre, dans des conditions qui seront vraiment déplorables. Après, je pense que Bruno...
Est-ce que je peux rajouter un petit élément là? Parce que tu parlais de la question de l'accès aux retraites. Ces derniers temps, le grand sujet politique national, c'est la question de la dette. Ah, la dette! La dette, c'est une avance sur ressources. C'est-à-dire qu'on dit, ok, je te donne de l'argent maintenant sur de l'argent que tu me donneras plus tard. Sauf que cette ressource, il faut bien la créer à partir de quelque part. Quand on voit qu'en France, notre énergie ne vient pas de chez nous et que les sources d'approvisionnement en général, on s'est fait chasser en Afrique, on a plus de mal à l'avoir accès en Ukraine, on se rend compte qu'il y a une prédation de plus en plus forte sur les derniers territoires disponibles. Et le fait que 7 des 9 limites planétaires dans tous les cas sont dépassées, en fait, le fait de ne regarder la question de la dette que sur ce prisme-là, sans regarder dans quel système Terre ça s'inscrit, on va nécessairement dans un mur. Parce qu'on ne pourra pas aller créer cette ressource sur quelque chose qui n'existe pas d'un point de vue physique.
Alors, ta remarque, elle est vraiment, je trouve, très juste. Hein, moi, je vais même aller plus loin. La dette, en fait, c'est vraiment une consommation actuelle pour les générations futures. On est aujourd'hui dans une guerre générationnelle. Donc en fait, la dette, en fait, elle devrait être orientée justement pour préparer les générations futures et pas pour les pénaliser. Et aujourd'hui, la problématique de la dette, mais demain, par exemple, tu parles des retraites. Aujourd'hui, il y a des gens qui te disent qu'il faudrait faire de la retraite par capitalisation. Bon, mettons, on fasse de la retraite par capitalisation. Mais si demain, effectivement, notre modèle business as usual nous envoie vers une crise économique, le modèle de retraite par capitalisation, il est mort. Il est condamné, même, j'ai envie de dire, à l'avance. Donc, en fait, ces solutions-là qui nous sont vendues comme de bonnes solutions, en fait, sont déjà de mauvaises solutions parce qu'elles ne tiennent pas compte des réalités physiques et notamment des ressources en matière première. Parce que là, on parle de l'énergie, c'est le sujet de notre festival, mais on pourrait très bien parler du sable, on pourrait parler des cuivres, on pourrait parler de l'eau, on pourrait parler... Donc, il y a une multitude de ressources sur lesquelles on va être en pénurie. Et dire de manière, j'allais dire, un petit peu aveugle, tout ça, ça passe au-delà de... Et notre système va continuer dans un monde idéal où tout le monde va consommer de la voiture et du téléphone, ou de l'IA. Moi, honnêtement, j'y crois pas, quoi.
Et ouais, je vais reparler de ma maman deux secondes. Désolé. Mais cette semaine, on parlait de l'IA. Et elle était là à dire, t'as vu, t'avais pas vécu, t'avais pas vu que c'était ça la grande question qui arrivait. Tu parlais d'écologie, alors qu'en fait, la grande question sociale, c'est l'IA. Ouais, mais l'IA, c'est pareil, c'est la ressource. C'est-à-dire que là, on se projette dans un monde de transhumanisme complet, où on se dit que les humains vont être complètement remplacés, que les intelligences artificielles vont commencer à avoir une conscience qui va se retourner contre nous. Peut-être, hein, mais en fait, à quel prix? À quel prix? Et tu parlais tout à l'heure, Bruno, du fait que tu avais déjà des sentiments de nuit tropicale en 2025, ici à Marseille, alors que pour l'instant, on n'est qu'aux prémices de cette question-là. Ça sera quoi le ressenti physique de cette telle hubris de toujours plus en termes de ressources?
Je pense qu'on est même gentil. Hein, je pense que ça risque d'être beaucoup plus compliqué en termes de nombre d'habitants aussi sur la planète. Je pense qu'il y a des risques de ghettoisation aussi. Parce qu'il y a des populations qui vont rester bloquées aussi dans là où ils habitent, dans leur environnement local. Il n'y aura pas cette ressource-là, en fait, où les transports vont être de plus en plus compliqués, puisqu'on aura une diminution d'énergie aussi. Il n'y aura peut-être pas autant d'énergie pour tout le monde. Il faudra faire peut-être des choix. Peut-être qu'il y a des endroits où il n'y aura pas d'énergie, où il n'y aura pas d'électricité, où il n'y aura pas forcément accès à tout ça, au transport. Et moi, je vois plutôt, pour ceux qui ont des moyens, peut-être s'en sortir, mais ceux qui n'en ont pas, peut-être une forme de violence et qui va être plus grande. Quoi.
Des choix qui sont... Là, on dit qu'il va falloir faire des choix, mais en fait, je pense qu'il faut qu'on se dise que c'est des choix qui vont être inadmissibles, c'est-à-dire de dire, telle personne, est-ce qu'en fait, on continue à faire le traitement ou pas? Telle personne, est-ce que tel groupe de personnes qui est dans ce village un peu isolé, qui est entouré par un feu, est-ce qu'on décide d'envoyer un canadair ou pas? En fait, je pense aussi de manière un peu... Moi, c'est mon avis, si jamais on fait rien. C'est que tout ce qu'on est, nous sommes déjà en train d'imposer aux marges de la société actuelle, en fait, va venir dans le centre. C'est que ça existe déjà malheureusement en Afrique, ça existe déjà même dans les marges de la société française, mais ça va venir se rapprocher de plus en plus du centre parce qu'on aura de moins en moins les capacités physiques de pouvoir gérer tout ça. Je vois le temps qui passe, j'ai vu Marc que tu voulais intervenir. Malgré tout, la forêt des possibles, c'est une forêt qui veut donner de l'espoir et c'est important donc de montrer ce que peut être une trajectoire si on décide de ne rien faire et de se dire que les choix que nous prenons actuellement, sachant qu'il y a des élections qui arrivent prochainement, ont une incidence directe sur la vie qu'on va mener. Sachez que Marseille est l'un des plus grands hubs mondiaux de la question des data centers et que ça, ce sont des choix politiques. On décide d'allouer énormément de ressources énergétiques, notamment pour pouvoir ouvrir des data centers en France qui détiennent la donnée de ce qui se passe en Afrique parce qu'il n'y a pas assez de capacité de production énergétique stable et fiable sur le continent africain selon des data centers américains. Donc, c'est la France qui va... supporter ce coup-là. Donc, à un moment, quel est le choix politique qu'on décide de faire? Et donc, j'aimerais qu'on arrive sur quelque chose de politiquement plus joyeux. Et on va terminer l'émission sur ça. À quoi ça ressemble une société qui bifurque de manière qui donne envie de continuer à y vivre?
Alors, comme ça me permet de commencer par ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous vend quand même que l'écologie est punitive, mais en réalité, le choix de l'écologie, c'est le choix le moins punitif. C'est-à-dire que si on considère que demain, effectivement, on va se retrouver avec des restrictions d'eau, des restrictions... aujourd'hui, par exemple, on nous dit... c'est factuel. En 1960, il y avait 6 nuits tropicales en région PACA. Donc 6 nuits tropicales en moyenne en région PACA. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20. On nous dit 50 en 2050 et à peu près 110 en 2100. Donc l'impact sur l'emploi quand tu dors mal. Donc en fait, tous les choix aujourd'hui qui devraient nous conduire à l'écologie sont des choix qui devraient être payants en réalité pour demain, qui devraient justement aussi nous conduire à avoir un meilleur train de vie. Déjà, l'agriculture, si on réforme, on n'a pas parlé de la loi Duplon ou tous ces genres de trucs là, mais donc en fait c'est de l'amélioration des conditions de santé, l'amélioration de nos conforts potentiels pour demain dans une société qui sera contrainte, et puis c'est effectivement l'espoir d'une organisation organisation de société qui soit plus juste, plus préparée et plus solidaire, parce qu'en fait, on se rend bien compte que beaucoup de gens, enfin moi, il y a une certaine rêverie du monde écologique qui me déplaît, mais en même temps, il y a là-dedans beaucoup d'idées qui sont très intéressantes. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la sécurité sociale alimentaire, tout ce genre de projets qui sont des projets sociaux et qui ont vraiment une grande résonance, parce que c'est vraiment les moyens d'avoir demain un monde où les gens puissent vivre avec un sens aussi réel de ce qu'ils font dans leur quotidien et avec effectivement la possibilité de vivre normalement et pas avec toute une série de contraintes, et en premier lieu économique. En fait, les contraintes économiques, ça serait la pire des choses. Donc oui, moi j'avoue que je suis quand même plus optimiste, même si j'ai eu un discours assez noir. Je suis quand même assez confiant, parce que je pense qu'effectivement il y a des choses qui déjà même se trament malgré tout, et je pense qu'il y a les moyens, l'humanité elle a les moyens, mais bon, il faut vraiment quand même qu'on se bouge.
En parlant d'émissions, tu me parlais de la question de la solidarité et des low-tech et d'un mode de vie qui était sobre. Et donc là, j'ai envie de me tourner vers toi, Bruno. Finalement, en fait, est-ce que ce que vous faites avec l'Adaptress, c'est pas ce qu'il faudrait qu'on fasse partout? Si jamais tout le monde vivait le fait de faire des jardins partagés, de créer des solidarités locales, de pouvoir faire en sorte qu'il puisse y avoir sur des territoires des liens d'entraide pour répondre à des besoins de base, et que tout le monde faisait ça, est-ce que ça serait pas ça une capacité, quelque chose qui soit matériellement soutenable et humainement souhaitable?
Moi, c'est ce que je pense. Après, je ne suis pas sûr que chaque éducateur a sa façon de voir les choses et d'organiser son travail aussi. Après, moi, je projette mon travail vers ça, parce que c'est ce à quoi je crois. L'optimisme va vers ça, c'est-à-dire à quelque chose de plus local, à quelque chose de plus concret aussi pour ces populations-là qui sont, avec qui on travaille, et d'essayer d'inventer des choses, de recréer des choses plus sereines. C'est-à-dire, là, on a créé un verger méditerranéen afin que les habitants puissent servir des fruits. À l'automne, on fait une cueillette d'olives aussi pour faire de l'huile d'olive pour la ville, pour les habitants. L'idée, c'est de faire du local, mais tout en se développant. Et l'idée de décroissance active, c'est un peu cette idée-là. Et je pense que c'est quelque chose de... pour moi, c'est quelque chose qui peut être très positif pour la suite, sur des actions concrètes comme ça. Et si chaque endroit est proactif justement sur sa propre écologie, son propre environnement, je pense que c'est des choses qu'on peut réaliser et puis qu'on peut vivre tout ça sereinement et pleinement.
Et ben voilà. Tout un programme qui sera présenté le 21 septembre, février prochain, donc dans 3 jours à partir de maintenant. Messieurs, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose que vous avez envie de transmettre, une petite graine à semer dont on espère qu'elle poussera dans les esprits de celles et ceux qui nous écoutent?
J'aimerais effectivement, si j'avais un souhait, j'aimerais aujourd'hui qu'effectivement que ce soit les politiques, les acteurs associatifs, tous les citoyens se réunissent, les syndicalistes également, les financiers se réunissent pour projeter un projet à 30 ans. En réalité, aujourd'hui, ce qui manque aujourd'hui dans la vision politique, on est que sur des visions à court terme. En réalité, ce qu'il faudrait c'est rigolo, parce que pour quelqu'un qui est supposé écolo, imaginer un général de Gaulle avec un projet un plan Marshall de l'écologie dit comme ça, ça peut être marrant, mais en même temps aujourd'hui il n'y a pas de leadership, on voit bien qu'il manque des visions de la société à long terme. Et si effectivement au moins on arrivait demain à avoir ce genre de Grenelle de l'environnement, où tous les acteurs seraient formés, auraient compris qu'il faut mettre mettre vraiment l'église hein, au centre du village et commencer à parler sérieusement, ça débunkerait aussi toutes les idioties. Aujourd'hui, il faut être honnête, là, quand on écoute les médias, c'est affolant. Et ça serait vraiment un souhait. Et j'encourage aujourd'hui les gens justement à porter davantage leur voix, parce que c'est malheureusement aujourd'hui, si on ne s'engage pas physiquement, l'une des rares solutions pour aussi faire avancer les choses. Et donc il faut vraiment que les gens aujourd'hui prennent conscience qu'il faut qu'ils s'accaparent ces sujets-là hein. Ouais, donc ça serait peut-être ça aujourd'hui mon...
Merci Marc. En toute modestie, j'aurais envie de dire votez pour la forêt des possibles. On a une vision pour 30 ans. C'est ce qu'on est en train de construire depuis des années et d'enraciner patiemment. Attends, avant la fin du son, Jeanne, on n'a pas entendu Bruno. Bruno, ta graine à semer.
Moi, j'aimerais qu'on travaille sur l'éducation des enfants à l'environnement et que ce soit vraiment quelque chose, une matière qu'on travaille vraiment pour tous les enfants, tous les jeunes scolaires, que ce soit de l'école primaire au collège, au lycée, afin de qu'il y ait une culture commune de l'environnement et de l'écologie.
Merci, on le souhaite vivement et on souhaite que ça soit aussi dans les esprits des plus grands. N'oubliez pas d'aller voter, ça sera bientôt. C'est des choix qui sont un peu déterminants. Belle soirée à toutes et tous et à la semaine prochaine.